c'est parce que Radio KP unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Mais bien, merci de votre fidélité au Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. La coupe des arbres, le ramassage et l'accueil des produits forestiers non ligneux, chenilles et champignons font partie des activités principales de la population, des populations vivant en milieu reculé. Alors le non-respect du cycle de reproduction de la forêt entraîne parfois la rareté des espèces animales et végétales. Cela affecte également l'environnement. Alors comment motiver les communautés locales à ne pas faire pression sur les écosystème afin de protéger l'environnement. Gilbert Atanda est chef du projet pilote des réductions des effets des gaz à effet de serre intégré géographiquement autour de la réserve des biosphères de Louki. Il est notre invité. Gilbert Atanda, encore une fois, bonjour.
Rebonjour, monsieur le journaliste.
Voilà. Nous parlons aujourd'hui de la protection, comment motiver les communautés locales à protéger l'environnement, parce qu'il y a, on a constaté une forte pression de ces communautés sur la forêt, parce qu'on doit y trouver à manger, on doit y trouver du bois et autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les motiver à protéger l'environnement et à réduire cette pression?
Oui, merci, monsieur le journaliste, merci pour cette question qui est très préoccupante et dont les conséquences ne se limitent pas tellement au niveau d'une zone, mais au niveau mondial. Et comme nous connaissons l'importance de forêts, et avec tous les avantages que cela apporte, que ce soit pour l'homme lui-même et que ce soit aussi pour l'humanité tout entière, Et comme il se fait que ces communautés qui vivent dans ces milieux où il y a la forêt doivent nécessairement vivre de ces produits, je pense qu'il est important de conscientiser, de sensibiliser cette population pour un usage utile, un usage raisonné, un usage durable. De toute façon, le prélèvement de produits au niveau des écosystèmes, que ce soit les chenilles, les produits forestiers non lignés, tout cela n'a pas tellement d'impact sur l'environnement. Donc, il suffit que ces populations puissent avoir des habitudes, de bonnes pratiques et de pouvoir récolter périodiquement en respectant aussi l'environnement. Mais aussi, ils doivent préserver, c'est-à-dire qu'ils doivent le protéger et même créer. Aujourd'hui, ce que nous voyons, les forêts qui sont dégradées par un mauvais usage perdent la plupart de leurs produits utiles, que ce soit les arbres, que ce soit les produits forestiers non lignés, les produits médicinaux, et même de l'impact au niveau de l'eau, de l'air, de la nourriture. Or, tout cela, ce sont des biens que la population a besoin pour sa vie. Donc, aujourd'hui, il faudrait encourager les populations, les motiver, à leur apporter ce que nous appelons les paiements de services environnementaux qui constituent des mesures d'incitation pour la conservation et la restauration. Mais là, il faudrait que ces communautés qui sont responsables, qui sont propriétaires, il faut que un mécanisme de contrat soit existé, plutôt existe entre eux pour que celui-là qui réalise ce service et qui pourra bénéficier de l'essentiel de services soit récompensé. Et c'est comme ça que, par exemple, au niveau du projet pilote de RD, nous avons réalisé au mois de juin dernier le paiement des services environnementaux dans le cadre de préservation des savanes. Donc, des savanes qui, après quelques années, vont devenir des forêts avec tous les avantages que ces forêts apportent, les produits végétaux, animaux, comme vous avez dit tantôt. Donc voilà un peu comment il faudrait non seulement sensibiliser, mais récompenser, apporter un encadrement à ces communautés. Je pense que on pourra reconstituer les écosystèmes pour une gestion durable.
Voilà, il faut les sensibiliser, les encadrer, et puis il faut des récompenses aussi. C'est de cette façon qu'on peut les motiver, à motiver les communautés locales à protéger l'environnement. Alors d'abord, par rapport à la sensibilisation, comment doit-elle se faire?
Oui, la sensibilisation, si je peux aller dans le cas concret, comme ici chez nous à Louki, la sensibilisation se fait d'abord à travers des réunions communautaires que nous organisons avec les populations. Il y a aussi les chaînes de radio et de télévision locales avec qui nous avons signé des contrats pour diffuser des messages importants qui concernent la préservation de l'environnement. Mais aussi de la communauté qui est organisée avec le comité local de développement. Il y a aussi quelques personnes qui sont identifiées comme éco-sensibilisateurs et qui sont aussi encadrées et qui vont de porte à porte chaque semaine pour animer les communautés, pour leur montrer l'importance de l'environnement et leur dire les dangers qui émanent des non-respects de cette protection, comme vous l'avez dit. Nous pouvons prendre par exemple le cas de feu de brousse qui constitue, nous avions l'autre fois parlé de ces brousses, qui constitue un danger contre la protection de l'environnement. Donc il faudrait apporter tout l'ensemble de ces moyens, de ces outils de communication pour sensibiliser la population.
Voilà, il faut avoir des éco-sensibilisateurs qui vont faire du porte-à-porte pour sensibiliser la communauté. Alors, par rapport à l'encadrement à fournir à cette communauté, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Oui, à ce qui concerne l'encadrement, par exemple, au niveau des acteurs du projet, nous travaillons toujours, comme je l'ai dit, avec les comités locaux de développement, qui sont des structures organisées au niveau de chaque village et qui ont des responsables à leur niveau. Et c'est à ce niveau-là que nous identifions ceux qui sont ayant droit et qui sont des propriétaires fonciers et qui sont plus responsables de la protection de cet environnement ou de ces forêts. Auprès de qui nous apportons un certain nombre d'outils de sensibilisation, mais aussi d'encadrement. Par exemple, pour ce qui est de protection des savanes, de mise en défense de savanes, nous réalisons par exemple ce que nous appelons des coupes-feu. Donc, coupes-feu, ce sont des motivations qui permettent aux communautés de pouvoir créer des barrières contre le feu pour protéger les endroits qui sont sensibles, qui sont ultra vulnérables. De cette façon-là, avec cette petite motivation et le message qui passe régulièrement, porte à porte, permet à ce que l'encadrement quitte au niveau des acteurs du projet et ça descend au niveau des acteurs de communautés eux-mêmes qui sont maintenant responsables, qui s'approprient le mécanisme pour pouvoir le rendre efficace à leur niveau.
Par exemple, si ces gens doivent aller dans la forêt chercher les produits forestiers non ligneux, alors s'il faut les encadrer, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'il n'y ait pas un impact négatif sur la forêt?
Oui, et d'abord, pendant les réunions qui sont organisées avec les communautés, on leur montre quels sont ces produits nécessairement. Et comment ce produit fonctionne, ça développe, et quels sont les impacts qui peuvent arriver si ce produit ne sont pas bien utilisé. Déjà, avec beaucoup de ces réunions-là, les communautés, ils savent, avant d'aller en forêt pour prélever le produit, qu'il faudrait, par exemple, s'il faut prendre le gibier, il faut pas tuer l'ensemble de gibier, ou il faut choisir un gibier qui est déjà à l'âge. À ce moment-là, le reste, ou par exemple, je peux prendre le processus de la pêche, ils vont pêcher, ils vont chercher le poisson. Il trouve qu'il a prélevé un petit poisson, qu'il ne va pas sauver la famille, il remet le poisson dans l'eau. Tout cela, tout ce, l'ensemble de tous ces mécanismes, de tous ces encadrements permet à la communauté déjà informée, ils vont à forêt pour prélever le produit et à fort et bon usage. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont, ils préservent de la nature.
Bien. Comment motiver les communautés locales à protéger l'environnement? Gilbert Attanda, chef du projet pilote des réductions des effets à gaz et serres intégrés géographiquement autour de la réserve des biosphères des Louki, est notre invité. Nous avons en ligne Malonga qui nous appelle des Bandundouville. Bonjour Malonga. Malonga, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour Jordi.
Oui, quelle est votre question par rapport à ces thèmes?
Ok, ma question, vous allez m'excuser, je me présente d'abord, je suis l'un de l'environnement. Au moment où nous parlons, je suis dans mon bureau des reboisements. Nous sommes chargés de ce que nous parlons aujourd'hui. En tout cas, nous subissons beaucoup de propos des populations locales concernant ça. Lorsque nous reboisons nos sites là-bas, les populations, avant de reboiser, nous sensibilisons la population. Mais qu'est-ce que la population nous dit? Nous dit ceci. Est-ce qu'au moment où vous venez reboiser nos terrains ici, qu'est-ce que nous aurons comme bénéfice? Nous leur expliquons très très bien l'importance des arbres, l'importance de l'ombre pour empêcher les gaz à effet de serre. Mais ce que nous souffrons, nous, aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est le soutien et l'accompagnement. Hein? Nous sommes délaissés. Et d'ailleurs, on vient d'incinérer un site que nous avions élaboré là à l'Institut Ntoto. Et dès maintenant que nous parlons ici, nous sommes dans le processus aussi de commencer, après cette saison sèche, nous allons commencer à reboiser aussi les institutions supérieures, les écoles primaires et les écoles secondaires. Mais jusqu'à présent, le mode de transport, tout ça, nous avons déjà initié à envoyer nos tracts dans des églises, dans des écoles aussi, pour mettre à la population au rythme de ce que nous allons faire. Mais la souffrance que nous souffrons, nous les agents, hein, de ce que nous parlons aujourd'hui, en tout cas nous sommes délaissés, il n'y a rien comme d'appui. Mais nous le faisons à l'amour de la nation.
Mais Malonga, dites-nous, lorsque vous faites ces reboisements, vous expliquez à la communauté le bien fondé de cette activité, après, quelle est la réaction?
Oui, la réaction d'abord, c'est qu'un chef, un chef de localité nous avait répondu. Et en tout cas, nous voulons créer la forêt au milieu du village. Est-ce que, avec le temps, au moment où ces arbres croissaient, est-ce que ça ne va pas constituer des sites de bandits, et là où ils viendront se cacher et faire les mal dans la ville? Ça, nous avions aussi argumenté là-bas, mais en tout cas, ces gens n'étaient pas vraiment à l'abri de la compréhension. Bon, il y avait beaucoup de questions qui n'ont, en tout cas, au mieux de faire ça en dehors de la ville, loin de la population. J'avais dit non. Vous voyez, si nous avons des places, la terre, et la terre de la place, c'est là où il n'y a pas l'ombre et Dieu. Mais la terre de la place, c'est là où il y a des arbres et fragiles. Raison pour laquelle, là où il y a des arbres, la vie aussi peut être fragile et adaptée. Raison pour laquelle nous voulons accepter, entre la ville et ici, nous ayons vraiment bien embrouillé, bien couvert de la forêt et ceci. Il y a, c'est la minorité qui avait bien compris, mais en tout cas la majorité était restée seulement à la discussion inutile.
Et finalement, vous avez pu, vous avez reboisé ou pas?
Oui, nous avions reboisé. C'est ce que je vais déplorer aussi aujourd'hui.
D'accord.
On vient d'incinérer notre site là-bas. Hein, vous voyez cette saison ici. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas la source de ce site.
On vient d'incinérer. Où se trouve les sites en question?
À l'Institut Ntoto, ici chez nous à Ville, hein, à l'Institut Ntoto, là, à côté de quartier Malébola, dans la commune de Mayoyo.
Voilà, il y a eu un feu de brousse. Voilà, un feu de brousse dont l'origine est inconnue. D'accord, merci pour cette intervention, Malonga. Eli Lokwa, vous êtes à Mbandaka. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les compatriotes de la République. Je vais d'abord commencer à donner un peu une petite distinction par rapport à ce que l'invité a dit. D'abord, on va d'abord commencer sur les droits de la nature, les droits de la population locale. Dans ce concept de la protection de l'environnement, nous devons nécessairement et scrupuleusement comprendre la différence et faire une étude comparative entre les droits de la nature et les droits de la population locale. Dans les droits de la nature, il est bel et bien de comprendre que la nature, l'environnement, a bel et bien été détruit. Donc, l'environnement cherche à se restaurer. Donc, il faut protéger l'environnement. Il faut faire en sorte que l'environnement ne puisse pas être délabré. De l'autre côté, les droits de la population locale. La population locale, c'est le peuple. La population locale doit nécessairement vivre au dépens de l'environnement. Ni quitter l'environnement, la population ne peut pas vivre. Donc, dans cette optique, il faut faire des différences. Et lorsque vous voulez protéger la nature, protéger l'environnement, il faut faire en sorte que le peuple qui vit, qui dépend de l'environnement, puisse être dans une vie sociale un peu magnifique pour moi. Parce que dans notre pays, vous savez, après la conférence de Paris, on avait envoyé l'argent, le budget, en vue de la restauration des écosystèmes. Cet argent aiderait aussi la population locale pour les sociales du peuple.
D'accord.
Alors, où est parti cet argent? Pour cette raison, je vais poser la question à l'invité,
oui.
On dit à Cécile, qui nous explique un peu les méthodologies qu'on peut utiliser pour pouvoir sensibiliser la population et pour aider la population à un salaire, une rémunération équitable, en vue que cette population ne puisse pas délabrer l'environnement.
D'accord,
c'est
merci.
C'est ma préoccupation.
Merci Elie Lokoa. Clément Daye, vous êtes à Kananga, bonjour, et quelle est votre question?
Daniel Nkachama, bonjour aussi à l'invité de la radio Capi.
Oui.
Je voudrais juste demander à l'invité, selon son introduction, je l'ai entendu parler de certains mécanismes que nous devons normalement prendre au sérieux. La raison pour laquelle je le demande, quels sont certains mécanismes-là qu'il a fallu prendre au sérieux qui peuvent nous permettre à ce que nous puissions conserver les flores. La deuxième des questions, à son niveau, à quoi se prend normalement la motivation? Puisque je l'ai entendu aussi parler de la motivation en question. De quoi cela dépend? La troisième des questions, à quoi est-ce que lui pense en ce qui concerne normalement les déboisements? Ce qui font normalement les déboisements, à quoi il fait allusion? À quoi est-ce qu'il pense à ce genre-ci? Voilà ce que je voudrais juste demander. Merci, Jody.
Bien, je vous en prie. Nous parlons de comment motiver les communautés locales à protéger l'environnement. Gilbert Atanda, la chef du projet pilote de réduction des gaz à effet de serre, intégré géographiquement autour de la réserve de biosphère de Louki, est notre invité.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, Gilbert, vous avez suivi les réactions les questions de ces trois auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, j'ai bien suivi les questions, monsieur journaliste. Comme vous le savez, je suis sorti en dehors de mon bureau, je suis sous un arbre et je n'ai pas pu prendre un stylo pour noter.
D'accord.
Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Si vous essayez de me le répéter une après l'autre.
D'accord, il n'y a pas de problème.
Je voulais d'abord dire au départ à nos auditeurs,
oui.
En principe, l'homme doit vivre en équilibre avec la nature, avec son environnement. Puisque dès qu'il y a déséquilibre, à ce moment-là, c'est l'homme qui est d'abord qui est perdant. Puisque c'est l'homme qui doit générer, c'est l'homme qui doit créer, et il doit faire un effort pour ne pas détruire la nature dans laquelle lui-même dépend. Voilà, ça c'est ce qu'il faudrait d'abord connaître dès le départ. Et notre collègue Bandundu, il a parlé effectivement de problèmes de sensibilisation. La sensibilisation, ça dépend d'abord du message que vous apportez. Puisque si vous apportez un très bon message, plutôt un très bon message aux communautés et qu'ils comprennent ce message, je pense qu'ils vont le mettre en pratique. Et un message doit être de fait concret, à partir des exemples. Vous sensibilisez, pas théoriquement, mais à partir de petits exemples. Et les communautés qui sont fabriques, qui vivent avec la nature, ils savent que depuis un certain temps, depuis quelques années, il y a déjà des changements qui sont constatés autour d'eux. Et ils ne connaissent pas l'origine de ces changements. Parfois, ils n'ont pas un esprit de pouvoir, disons, déterminer quelles seront les conséquences futures. Et c'est comme ça que vous, acteurs de développement, vous allez sur le terrain, vous rencontrez les populations locales, il faudrait passer un message à leur montrant que ce qu'ils font est bon, ils ont droit à la vie par rapport à ce produit, mais s'ils ne savent pas exploiter ou prélever ce produit-là de façon rationnelle, ce sont eux qui vont le perdre, puisque il faut pas croire que la nature est là, et elle reste éternellement, oui. Mais il suffit de bien le gérer. Si vous le gérez de façon durable, vous prélevez de façon raisonnable, rationnelle, à ce moment-là, vous pouvez, le gérer de façon durable. Mais aussi, c'est vrai que ce travail, c'est d'abord le travail de l'État. C'est l'État, normalement, qui doit donner tous les moyens nécessaires à la communauté, aux encadreurs, aux organisations pour pouvoir aider les populations. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des partenariats qui existent entre l'État, donc des partenariats privés, des partenariats aussi publics, qui permettent à l'État d'avoir des moyens de donner à ces communautés la possibilité de pouvoir protéger leur environnement et de user de ces produits de façon durable. Et à ce moment-là, si le message est bien passé, je pense que cette communauté n'aura pas à pouvoir s'en abuser, puisqu'elle connaît qu'elle vit au dépens de cette nature, de cet environnement. Je pense qu'il pourra faire en sorte que le prélèvement qu'il fait puisse lui bénéficier, puisque cette nature ne lui appartient pas seulement, ça appartient aussi à ses fils, à ses petits-fils, donc pour une génération future.
D'accord. Et Eli Lokwa de Mbandaka nous a dit qu'il y a les droits de la nature, il y a aussi les droits des populations locales. Les populations locales ont droit de mener une vie sociale, quand même une bonne vie sociale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? D'après lui, il y a des fonds qui ont été même donnés pour aussi pour la protection de l'environnement, mais aussi pour améliorer les conditions de vie de ces communautés. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en leur faveur?
Merci pour cette question. Bon, en tout cas, à ce qui concerne le fonds, je n'en sais rien. Moi, je suis de l'ONG internationale WWF. Donc, si les fonds ont été donnés par le canal des autorités de l'État, ça, je n'en connais pas. Mais je sais que le projet que le WWF est en train d'exécuter, c'est un projet du gouvernement. Les fonds ont été donnés par le fonds pour le forêt de bassin du Congo. Et avec ce fonds, qu'est-ce que nous faisons? Nous encadrons ces populations-là. La population, comme je l'ai dit, doit vivre en équilibre avec la nature. Il ne faut pas demander à la population qui vit dans la forêt d'aller chercher sa vie, ses produits en ville. Il faut l'aider. Il faut l'aider, l'encadrer, le sensibiliser à partir de produits qu'il trouve dans la forêt. Il doit vivre de cela, que ce soit pour son alimentation, pour source de revenus et pour s'équiper. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à ce qui concerne ne fût-ce que le produit forestier non ligné, il faudrait arriver à développer auprès de communautés des filières de ces produits. C'est-à-dire une façon de les récolter, une façon de les conserver, une façon de les amener sur le marché afin qu'ils puissent retirer des revenus de ça. Avec ce revenu, ils peuvent s'acheter d'autres produits finis qu'ils n'ont pas au niveau de village. Effectivement, il y a un problème. Je reviens par exemple dans notre pays, le problème d'enclavement, puisque si on ne sait pas avoir un accès sur le marché, il est difficile que le produit que vous avez à votre niveau, vous puissiez le commercialiser et aussi à bon prix. C'est comme cela qu'en principe, il faudrait que l'État, pour ce qui est de ses propriétés, les entretiens de route, c'est l'État qui doit s'en occuper, donc il doit faire sa part, les organisations aussi vont faire leur part, et la communauté, normalement, fait déjà leur part. La communauté, il doit vivre de sa nature, mais il faut l'aider, il faut le faire comprendre que il faut gérer de façon rationnelle ces produits de la nature, puisqu'ils peuvent un jour s'épuiser.
Voilà, et Clément Daï de Kananga parle des mécanismes à prendre au sérieux pour conserver la flore. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, effectivement, la flore, généralement, c'est la forêt ou les végétaux. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait avoir des mécanismes pour pouvoir protéger, provoquer la régénération. C'est-à-dire que la flore, c'est l'ensemble de tout ce que nous trouvons dans la forêt, comme végétaux et comme biodiversité. Donc, il va falloir seulement apprendre aux communautés, par exemple, à gérer durablement cette flore, et aussi à savoir comment il faudrait le multiplier, soit par une régénération naturelle ou assistée, ou aussi on peut le planter, puisque aujourd'hui on est en mesure de pouvoir planter quelques arbres ou domestiquer en vrai terme quelques plantes qui sont dans la forêt et qui peuvent encore être utiles pour la population en dehors de ce milieu naturel qui est la forêt. Donc tout ça là, ce sont des moyens de pouvoir aider le communauté, la population, de pouvoir être en mesure de protéger sa flore.
Bien, nous avons Julien en ligne depuis Kinshasa. Bonjour Julien.
Non, c'est pas Julien, c'est Jules ici. Non.
C'est plutôt Jules, merci. Alors, oui. Quelle est votre question, Jules?
Oui, ma question est ceci. Je suis à Nouvelle-Ité en environnement, mais les verres qui ont été ici censés être protégés, ils ne sont pas protégés. Alors, qu'a-t-il à ces points-là? Parce que nous sommes là, on est un pays, on ne sait pas faire face devant ces gens-là qui sont en train d'abattre à tout moment les arbres. C'est précisément se situe en face des cliniques universitaires. C'était un site où Macha avait planté aux années 2011, mais aujourd'hui cette forêt-là est en train d'être déboisée. Vraiment, il y a vraiment presque plus d'arbres. D'ailleurs, celui-là à côté. Qu'en est-il pour ces habitants-là? Parce que si je viens de suivre notre intervenant, l'évité qui est sur le plateau, il dit de sensibiliser la population sur comment protéger cet environnement immédiat. Alors, la population a besoin parfois des arbres, des arbres pour le feu. Maintenant, ils n'ont pas d'électricité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de les faire, de couper l'arbre et d'occuper aussi l'endroit pour y construire. L'État les a liénés cet espace. Quant à nous, les environnementalistes, qu'allons-nous faire à ce propos-là?
D'accord, merci. Gilbert Attanda.
Oui, de toute façon, comme nous le savons, un territoire, c'est une entité qui est réglementée. Il y a des services de l'État qui sont occupés pour pouvoir gérer les espaces. Donc, en principe, que ce soit au niveau des villes, que ce soit aussi au niveau de milieux urbains, rurales, il y a toujours des espaces qui sont réservés, soit pour les maisons, soit pour d'autres activités. Il est vrai qu'au niveau des villes, il y a eu ce qu'on appelle des espaces verts qui ont été créés, mais qui malheureusement n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, ces espaces sont déboisés. Or, ce sont des espaces qui devraient normalement rester là, éternellement, avec l'importance que ces espaces jouent dans le cadre de l'environnement. Aujourd'hui, on se détruit ces espaces, mais on ne sait pas les remplacer. Ce qu'on devait faire normalement, c'est, après avoir détruit, il faut remettre ces espaces. Ces espaces jouent un rôle primordial. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des effets, des érosions un peu partout dans la ville, puisqu'on n'a pas le respect des espaces verts. On ne connaît pas le rôle que joue l'arbre, les espaces boisés pour lutter contre les érosions. Or, ce sont des pratiques où, si aujourd'hui, l'homme respecte l'environnement, puisque c'est un problème d'équilibre, comme je l'ai dit, un problème de respect mutuel. Donc, l'homme doit respecter l'environnement. Si l'homme respecte l'environnement, il utilise son environnement à bon escient, à ce moment-là, l'homme va tirer plutôt des services et des produits conséquents qui lui permettront de vivre en état d'équilibre et aussi en évitant toutes les conséquences que nous avons aujourd'hui, des réchauffements climatiques, les inondations, les érosions et tout comme ça.
Oui, alors Gilbert, parlez-nous, vous développez un projet qui consiste à motiver les communautés à bien protéger l'environnement. Alors parlez-nous parlez-nous de ces projets, comment vous faites exactement pour mettre à l'œuvre ces projets?
Oui, dans le cadre de notre projet Rail de Loup, qui est un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme vous le savez, donc l'importance est mise sur les arbres. Les arbres qui jouent un rôle capital dans la séquestration de carbone. Alors, c'est comme ça qu'au niveau du projet, nous avons un objectif de 1000 hectares de plantation. Donc, nous avons aujourd'hui réalisé déjà 800 hectares des acacias. Ces plantations sont réalisées par les communautés, s'il vous plaît, dès le début jusqu'à la fin. Les acteurs du projet sont là pour les encadrer, pour les accompagner, les motiver. Bien sûr que c'est le projet qui met le moyen pour pouvoir réaliser ces activités. Mais déjà, les communautés sont conscientes du fait que ces espaces-là leur appartiennent. Ces savanes qui ne sont pas utilisées leur appartiennent. Et ces arbres qui sont plantés aujourd'hui par eux-mêmes leur appartiennent. Le projet va partir, mais ils vont rester avec. Je prends aussi le cas de savanes mises en défense. Les savanes sont des espaces qui ne sont pas utilisés, qui n'ont pas d'importance ici dans le milieu. Donc, chaque année, en principe, les communautés ils mettent du feu pour chercher des souris, des rats, tout ça là. Mais aujourd'hui, les populations ont compris que savane qui est protégée, après 5 ans, après 10 ans, va devenir une forêt, avec tous les avantages que cela va apporter, la fertilité du sol, il y a les espèces végétales qui se développent, les arbres à chenilles, les arbres utiles même qui sont développés. Aujourd'hui, nous avons un cas concret d'une savane protégée depuis 2004 qui est devenue une forêt aujourd'hui, et où il y a maintenant une abondance de la faune sauvage, c'est-à-dire des animaux sauvages sont revenus en abondance dans cet espace, puisqu'ils trouvent un milieu utile pour la vie et il y a de l'équilibre. Donc, ça permet aux communautés de pouvoir comprendre l'importance de toutes ces activités-là. Et aussi, on a installé, par exemple, ce que nous avons appelé des fermiers pilotes. On a accompagné les communautés, on les a formés comment gérer un espace qui vous appartient, par exemple 10 hectares, où vous ne pouvez pas aller en dehors de ces 10 hectares et que vous allez utiliser des pratiques de fertilité du sol, des pratiques de reboisement, de l'apiculture, donc une façon de sédentariser ces communautés, à ne pas aller faire pression à gauche, à droite pour détruire la nature, mais que à partir des espaces qui est à sa disposition, cette population-là parvient à pouvoir gérer de façon rationnelle le produit et vivre avec ça. Voilà,
merci beaucoup Gilbert Atanda. Je rappelle que vous êtes chef du projet pilote de réduction des effets des gaz à effet de serre intégrés géographiquement autour de la réserve des biosphères des Louki. Merci pour toutes ces informations et à la prochaine.
Merci journaliste, à la prochaine.